dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Mon premier entrée sur la scène était pour un grand public de 20 000 personnes. J'ai découvert le pouvoir d'un collectif. Ce que je peux pas faire, c'est un autre qui peut faire ça. Et l'ensemble va donner quelque chose de très intéressant. Je vais essayer de porter l'opéra, comment on dit ça, le seuil devant la porte.
Oui, le seuil.
Le seuil, le seuil. Yeah, donc à l'autre côté de la porte, là, de seuil. Le but sera que tout le monde doit avoir l'accès à l'art et culture. Et où c'est possible, à l'école. Mais les écoles, c'est pas leur truc.
Ici, au Vienna, j'ai mis mon art de performance dans ce projet de la commune de Paris, par exemple.
Moi, la leçon la plus importante était de savoir que tout est possible.
Vous pouvez réaliser vos rêves. Hein. Et j'ai appris, ça aussi était très important pour moi, j'ai appris que c'est possible de sortir des systèmes dominants.
Lisette Van Beek. Nous l'avons découverte cet été sur les scènes où la chorale citoyenne d'un village aveyronnais se produisait.
Lisette se présentait comme une néerlandaise en vacances en Aveyron, une chef de chœur occasionnelle et chanteuse de chorale engagée dans le monde associatif local.
Mais Lisette est bien plus que ça.
Au fur et à mesure des rencontres, nous découvrons très vite qu'elle a longtemps fait partie, dans les années 70 aux Pays-Bas, d'un collectif d'activistes culturels très engagés à gauche, qui a même réussi à éditer des vinyles, dont certains de leurs titres ont flirté avec les grands succès de l'époque. Mais ils ont refusé, malgré les foules de plusieurs milliers de personnes qui les suivaient, de céder aux exigences de l'industrie musicale.
Autre surprise, pendant 20 ans, Lisette a travaillé à populariser les airs d'opéra. Et actuellement, tout en continuant sa carrière de chanteuse aux Pays-Bas, elle œuvre à faire pénétrer l'art et la culture dans les écoles néerlandaises.
L'entretien aurait pu s'arrêter là, tant les découvertes étaient riches. Et puis, en fin d'interview, Lisette nous envoie un lien vers un documentaire édité en 2020, consacré au collectif dont elle a fait partie dans les années 70.
Et là, nous découvrons les fondements constitutifs de son parcours de vie, dont les prémices prennent racine au sein de ce collectif libertaire de Tilburg, qui comprend une fanfare, une maison d'édition, un théâtre pour enfants, une imprimerie, une salle de spectacle et même un café.
Dans un courrier, lorsque nous préparions cette émission, voici ce qu'elle écrivait.
J'ai fait ce que j'ai fait par passion et par conviction personnelle. La conviction que nous faisions quelque chose de grand, la liberté de développer nos talents et devenir qui nous étions, avec l'humanité comme boussole. Et oui, nos actions étaient certainement anarchistes. Peut-être pouvez-vous dire un anarchisme social ? Pas à gauche, pas à droite, mais transversal, conduit toujours d'une manière ludique. Et oui, pour moi, ma liberté a toujours été très importante, la liberté en général, ainsi que le droit à la liberté pour tous les autres.
Écoutons Lisette, qui, bien plus qu'une directrice de chorale, qu'une chanteuse, est une citoyenne révoltée par l'injustice et militante de la liberté, de la fraternité et de la vie.
Dissonance
avec
Lisette Van Beek.
Oh,
Lisette Van Beek, bonjour.
Merci.
Je t'ai découverte au Viala du Tarn récemment, tout d'abord comme chef de chœur de la chorale citoyenne du Viala, et chanteuse aussi dans cette chorale qui met à l'honneur un épisode méconnu de l'histoire de France, à savoir la Commune de Paris de 1871. Et cette chorale est composée d'habitants du Viala, mais aussi d'ailleurs. Et justement, Lisette, tu es néerlandaise, née aux Pays-Bas. Dans ton pays, Lisette, tu es chanteuse.
Ouais.
Dissonance nous invite donc à découvrir le parcours de Lisette, celui qui l'a mené du petit village d'Hilvarenbeek.
Oui, Hilvarenbeek.
Entre Anvers et Rotterdam, jusqu'au Viala du Tarn en Aveyron, mais surtout le chemin parcouru entre la scène de son école, où déjà toute petite elle aimait à se produire, jusqu'aux scènes européennes, aux Pays-Bas, en France, Espagne, Italie, Slovénie, Autriche, Allemagne, Luxembourg et Belgique, tout en gardant une prédilection pour, je cite Lisette, de petites scènes dans les salons et les arrière-salles, des refuges culturels où il y a la place pour l'expérimentation et surtout où le public est si confortablement proche. D'où te vient cet amour pour la chanson Lisette ?
Je chante depuis j'étais bébé, je crois. J'ai toujours chanté. Et j'ai toujours aimé chanter quand j'étais... Kindergarten. Ma mère disait tous les jours tu étais revenu à la maison avec une nouvelle chanson par cœur, chantée par cœur ou un poème. Donc j'ai aimé beaucoup l'institutrice de la crèche parce qu'elle tenait un livre avec les chansons. Et toujours quand les mains de cette institutrice approchaient le livre, c'était « Ah, la chanson, peut-être une nouvelle chanson ». Donc, je ne sais pas, j'étais toujours pris par des chansons et les petites histoires qui étaient dans les chansons. Raconter quelque chose avec une chanson.
Oui, donc c'était plutôt l'école maternelle que la crèche.
Ah oui, l'école maternelle. Ouais.
Mais dans ton milieu, tu viens d'un milieu aisé, d'un milieu culturellement déjà qui a des prédispositions pour la chanson, pour l'art lyrique ou...
Non, pas du tout. Je viens d'une grande famille, 7 enfants. Mes parents ont dû travailler dur. Mais ma mère a toujours aimé chanter. Elle chantait tous les jours. Et mon père sifflait toujours. Et, et notre village était un village très culturel. Toujours des festivals. Comme tout petit, j'ai vu des compagnies de danse de tout le monde, de partout. Les compagnies de Hongrie, de Russes, avec leurs costumes et leurs danses. J'étais comme ça, je veux aussi être à la scène avec les costumes. Donc j'étais toujours nourrie avec culture. La culture, il était une famille, ils avaient 12 enfants. Et avec leurs 12 enfants et leurs amis, ils ont formé une compagnie pour le théâtre. Et je l'ai vu souvent. Et plus tard, les enfants étaient devenus amis. Et avec ces amis, on a créé beaucoup de choses dans ce village, un festival, et un lieu pour la culture, et plus tard un collectif.
Oui, et tu avais quel âge là? Tu étais déjà adolescente ou déjà...
Adolescente, quand on a eu ce lieu à Hilvarenbeek, c'est un lieu où venaient toujours des groupes avec la pop-musique, mais très connu déjà, mais tout le monde qui travaillait était adolescent, donc pas de patron ou directeur, etc. Et le festival, j'avais 19 ans. Quand on a commencé le festival. Ce festival dont j'ai parlé quand j'étais petit, c'était merveilleux, mais c'était dans une grande place. Et autour de cette place était la table avec nourriture pour les notables. Et nous, donc le peuple, était avec les fesses dans l'herbe humide. Mais quand même. Donc après, on a dit, tous ces jeunes, nous allons organiser un festival ici, dans le village, mais qui est un festival qui est pour tout le monde. Tout le monde peut se nourrir, musique pour tout le monde, et, entrée libre. Et tout le monde avait juste 22, 23 ans, un peu comme ça. Mais avec beaucoup d'énergie, je crois. Et on a réussi d'organiser ça. Et la première fois qu'on a organisé ça, je me souviens bien ce matin, on a dit « Oh, qu'est-ce qu'on a fait ?» Parce qu'on a commandé de la bière, la nourriture, le podium de la grande artiste. Mais où vient l'argent? Parce que la commune n'a pas voulu supporter. Mais à la fin de la journée, il était déjà 11 000 personnes qui ont bu, qui ont mangé. Et le bière, on était hors de bière à 16 heures. Donc on a commandé l'entreprise pour le bière. Ah, on a besoin encore de bière. Encore de bière, c'est pas possible. Wow. Donc ils sont venus. Donc c'est un grand succès. Oui. Et après, on a refait cinq années.
Et tout ça, c'est ce qui t'a donné envie après d'en faire une carrière professionnelle?
Ça m'a donné l'idée que tout était possible. Parce que quand j'étais petit, tout petit, je me dis, je veux jamais être un adulte qui est dans un bureau ou dans une usine avec un patron qui fait. Donc, j'ai toujours eu un sentiment de. C'est comme un esclave, je ne veux pas être un esclave. Et, quand on a organisé ce festival, et je dis, ah, voilà, tout est possible. Donc, moi, je ne vais pas être un esclave, je vais faire ce que je veux. Et c'est quelque chose avec la musique, culture, théâtre. Ouais.
Et donc, tu as franchi le pas, comment tu as fait une première création avant de te lancer dans cette aventure ou...
Oui.
Il y a eu un moment où tu t'es dit, ça y est, je me lance, je vais en vivre.
Oui. C'était quand on a formé une collective, on a, avec les jeunes, acheté une maison, un studio et tout. Et j'avais déjà des cours de chant classique. Et la base du collectif était un groupe qui s'appelait Veelpoepers. C'est les gens qui font caca beaucoup.
D'accord.
Et c'était très populaire aux Pays-Bas. Et moi, je n'étais pas dans ce collectif. Je faisais autre chose. J'habitais dans la maison qu'on a achetée, tout ça. Mais une des chanteuses partait de la groupe. Et après, ils disent, ah, mais Lisette, elle a déjà des cours de chant, donc on va demander Lisette pour rentrer dans ce groupe. Donc, voilà, c'était comme ça. Et c'était un groupe très populaire. Donc, mon premier... entrée sur la scène était pour un grand public de 20 000 personnes. Oh. Et un grand truc qui faisait enregistrement pour un LP, pour un disque. Mm-hmm. Et la télé qui a filmé. Et ma famille qui est devant la scène. Et j'étais comme ça. ouais, donc c'était l'entrée de ma vie comme artiste.
Ze werden van de bier veel te vet en zakten door het huwelijksbed. De maagd die brak haar mooie nek en de boer die werd gek. En ja, er was nog nooit beter bier dan in het café de Nederlandier. En ja, er was nog nooit beter bier dan in het café de Nederlandier.
Dissonance
avec
Lisette van Beek. Et que pensait ta famille? Qu'est-ce qu'elle pensait de te voir partir dans cette carrière incertaine? Parce que l'art est...
Mes parents m'ont laissé toujours libre. Donc, ils n'ont jamais dit « il faut faire ça ou faire ça ». Non, non, on fait comme tu veux. Et j'étais toujours très consciente de moi-même et de la vie. Ma mère dit toujours, quand Lisette est venue dans la famille, la révolution est entrée dans notre maison. Donc, elle m'a laissée comme ça et elle aimait trop la musique. Donc, elle était. Et même maintenant, elle a déjà 91 ans. Ouais. Et quand j'ai un concert, un peu. Près d'elle, elle est toujours là. Elle vient toujours. Et maintenant, je l'ai téléphoné hier et dit « Ah, oh, j'espère que le théâtre va ouvrir très, 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 très tôt. Enfin, hein, parce que je veux encore t'écouter. » Elle est toujours très enthousiaste. Donc, non, pas de problème de ce côté. Un peu le problème quand j'ai dit je veux la course de piano. Ma mère a dit non, mais on a 7 enfants, c'est trop cher. Non, mais je veux, et sinon je vais le payer moi-même. Oh là, après, ouais. Après, elle a dit ok. Donc, commence avec le flûte au bec pour la preuve si tu peux vraiment une et après le piano. Donc non,
je t'ai laissé à t'entendre. Et tu es quelqu'un qui aime la liberté mais aussi beaucoup le collectif.
Oui, j'ai découvert le pouvoir d'un collectif.
C'est quoi le pouvoir d'un collectif?
Ce que moi je peux pas faire, c'est un autre qui peut faire ça, et l'ensemble va donner quelque chose de très intéressant. Donc un festival comme ça, hein, le groupe de partout du monde, hein, comme les jeunes qui étaient toutes sous le 25 ans. Donc mais c'était tout a eu son même qualité. Et l'ensemble fait quelque chose de très... Et j'aime aussi la convivialité. Oui. Avec les gens comme ici, le spectacle qu'on a fait avec la commune, ça m'a donné la possibilité de vraiment, comme je le sens, vraiment entrer dans la commune, hein, de vraiment participer. Donc oui, ça aussi est important pour moi.
Et alors, je ne sais pas par quoi commencer parce que je sais que tu as fait un spectacle pour adultes, La Petite Scala, c'est ouais. Ça? Parce que tu as quand même aussi, il faut qu'on le dise pour les auditeurs, tu es plus orienté vers le chant lyrique ou pas spécialement, mais tu as une voix qui se prête à ça en tout cas.
Oui, et j'ai eu une formation de chant lyrique. Oui, j'ai eu ça, mais quand j'ai commencé, j'ai voulu juste me développer dans le chant. Mais à cette époque, ça n'existe pas, le chant de théâtre ou même chant pop, ça n'existait pas. C'était un peu le jazz. Je me disais, est-ce que je suis vraiment une chanteuse de jazz? Non. Donc peut-être quand je prends le chant lyrique, c'est la base de tout. Donc j'ai entré dans la formation de classique.
Sie sprechen wieder von Ehren, aber ich weine nicht. Da ist nichts mehr im Schrank, was zu holen wäre. Sie sprechen wieder von Siegen, aber ich weine nicht. Sie werden mich schon nicht kriegen. Es sind die Heere.
À cette époque, j'ai pas du tout aimé l'opéra. Je me dis, bon, l'opéra, c'est trop cri pour rien. Hein? J'ai pas aimé Callas. Non. Mais durant la formation, j'ai dû chanter les déserts et j'ai fait la traduction, j'ai été entrée dans le texte. Et après, j'ai découvert les histoires qui étaient derrière l'air, un air, hein, et l'opéra. Et peu à peu, c'était devenu un grand amour pour moi, parce que je me dis, mais c'est moi. Je commence toujours avec une histoire. Je veux raconter une histoire. Mais j'ai une voix, et j'ai le chant, c'est le médium, c'est pas le but. Et c'est comme fait les compositeurs, hein, ils ont un texte, une histoire, et puis ils vont leur exprimer avec la musique. Et après, je me dis, ah, ok, maintenant, après la formation, maintenant, moi, je suis fou d'opéra, mais tous mes amis pensent encore le même comme moi, hein, avant. Beaucoup de cris pour rien, c'est cher, tu comprends rien,
On comprend pas.
Oui. Et je me dis, je vais essayer de porter l'opéra à, comment on dit ça, le seuil devant la porte?
Oui, le seuil.
Le seuil, yeah, donc à l'autre côté de la porte, là, hein, de seuil. Donc, ce que je dois éviter, c'est... je veux faire comme ça, que tout le monde le comprend. C'est pas trop long, pas 3 ou 4 heures. C'est près des gens. Et un peu... légère. Et donc, c'est devenu la kleine scala. Donc, j'ai pris la grande opéra, La Traviata de Verdi. Je l'ai fait dans 20 minutes, tout le Traviata. Donc, je raconte très vite avec un accordéoniste. Donc, accordéon et opéra, c'est un truc nouveau. Hein. Donc, il a joué toutes les partitures. Et j'ai raconté et j'ai chanté 4 airs, je crois. Et c'était toute l'histoire et a beaucoup d'humour. Et après, les gens ont dit, « Ah, mais maintenant, c'est pas l'opéra. Maintenant, je vais voir un vrai opéra. » Donc, « Ah, OK, j'ai réussi en
Oui, ton objectif, c'était rendre l'opéra accessible à tout le monde. Et tu y arrivais apparemment.
Ouais.
Parce que même, j'ai vu des images où même des enfants... était là et écoutait, était très attentif à ce que tu faisais.
Ouais.
Mais c'est vrai que tu as fait une mise en scène extraordinaire. Enfin, j'invite les gens, on mettra le lien de la vidéo, mais c'est remarquable.
Oui, c'était pendant une balade. Je découvris toujours ce que je veux en marchant. Et maintenant, j'ai vu une grande robe, et tout était dans la robe, tout l'opéra. Et donc c'est la Scala de Milano, mais miniature. La robe est fermée quand j'entre la scène, et après j'ouvre sur un endroit un peu délicat. Mais voilà, c'est la scène de la Scala de Milano. J'ai tous les chanteurs et tous les chanteurs sont dans la robe.
Ouais, c'est bien.
Oui, et avec l'accordion, tout est portable. Donc on peut le faire partout.
Oui, j'ai vu que tu le faisais même dans la rue.
Oui, même dans la rue.
De la scène, de la salle, même dans la rue, quoi.
Oui, même dans... Oui, le festival de théâtre dans la rue, j'ai beaucoup joué là. Oui, parce que je crois que... À cette époque, j'étais toute seule de faire un opéra dans ces festivals comme ça.
Ouais. Et ce spectacle a tourné un peu partout? Tu as réussi à le faire tourner un peu partout pendant plusieurs années?
Oui, 20 années.
Et maintenant, tu as décidé de passer à autre chose?
De?
Tu as décidé de tourner la page? Tu ne le joues plus?
Oui. Il y a 2 ans, et j'étais dans un théâtre aux Pays-Bas, et on jouait ça, et soudain, je me dis, OK, c'est fini. Maintenant, je ne veux plus. Avant, les 20 années, avec beaucoup de plaisir, parce que c'est jamais la même chose, parce que j'ai une communication avec le public. Donc, quand il se passe là, quelque chose là, je le mets dans le spectacle. Donc j'ai beaucoup aimé de faire ça, de faire les voyages, d'être en route. Mais soudain, je me dis non, ça suffit, j'ai pris tout qui était dedans et maintenant je vais faire autre chose.
Dissonance
avec
Lisette Van Beek. Alors, c'est quoi l'autre chose que tu fais maintenant, Lisette?
Ah oui, je me dis, quelle est mon histoire de moi-même? Et j'ai cherché, parce que les opéras sont les histoires d'autres.
Et tu voulais tes histoires, ton histoire.
Oui. Donc j'ai fait un spectacle, The Fool on the Hill. Tu connais, c'est une chanson de Beatles, le fou qui est sur la montagne. C'est une chanson de Beatles. Et je me dis, je veux faire quelque chose avec le fou on the hill. Peut-être c'est moi, le fou sur la colline qui regarde le monde, les gens, qui regarde la vie et qu'est-ce qui se passe quand il est là. Et j'ai pris un conte d'Inde, India, une princesse qui cherche... quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. Donc ça, mais c'est moi. Je cherche, mais je ne sais pas quoi. C'était quelque chose de très spécial. Donc elle cherche dans les études, elle cherche dans les livres, dans les matériels, les trucs matériels. Oui. Et après, elle raconte sur la colline ce fou. Et il dit seulement... Tu as eu un bon voyage? Ah oui? Ah, donc tu veux boire quelque chose? Tu veux manger quelque chose? Ah ouais, ok. Et elle va dormir. Et après, quand elle ne regarde pas, elle prend ce qu'elle veut et met dans ce sac. Ouais. Mais quand elle se réveille, elle a oublié de le demander. Mais c'est déjà là. C'est peut-être un peu difficile à expliquer. Mais c'est l'histoire, et j'ai pris le laser et qui j'aime mieux, comme Ich bin der Welt abhanden gekommen, von Mahler.
D'autres chansons, ah oui, de Mahler, oui.
Mahler, oui. Donc je me dis, je vais chanter tout ce que j'ai voulu chanter toujours, mais pas être possible. Mais maintenant, je vais le chanter.
Maintenant, tu peux le faire, d'accord. Donc, c'est toujours un spectacle avec des airs d'opéra, des airs à...
non,
spécialement,
non,
quoi.
Non, même le tango.
D'accord.
The Beatles, les Beatles, Mahler, donc tout.
D'accord.
Parce que pour moi, je suis pas complètement lyrique. J'ai eu mon formation, mais je m'identifie pas.
Oui.
Avec une cantatrice, chanteuse,
tout
lyrique.
Tout à fait. Tu es sur plusieurs styles, en fait, quoi. Parce que moi, je t'ai entendu dans un CD, je crois que c'est Les Vieux Amants, c'est ça ?
Ouais.
Hein, où tu interprétais des chansons de Brel, mais aussi de Barbara.
Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, draagt sporen van een fel verleden. De wilde hartstocht lijkt nu heen, de zoete razernij vergaan, de wapens waar we toen mee streden.
Je t'ai entendu aussi chanter Leonard Cohen dans Tribute. Il y a une vidéo que j'aime beaucoup parce que ça te ressemble. C'est celle où à un moment, plein de gens rentrent sur scène. Là, tu invites des dames,
oui,
des messieurs, et je retrouve là ton amour,
oui,
du collectif.
Oui, c'était des dames. J'ai une chœur, une chorale aux Pays-Bas. Ce sont des femmes de différentes religion, ethnies, différentes,
oui,
ethnies, différents pays. Et ça s'appelle Colorées Mamas, donc les mamans colorées.
Colorées.
Colorées. Et ils se rassemblent toutes les semaines. Ils racontent leurs histoires et moi, j'aide leur de écrire quelque chose.
Mm-hmm.
Une compositrice fait chansons,
ouais,
ça, et on se produit avec ça. Donc ce sont des concerts avec leur propre histoire. Ça marche très bien.
Très tourné vers les autres aussi, ton amour du collectif où tu participes, mais tu aimes aussi donner la parole à plein de gens.
Oui.
Ces dames, par exemple, qui peuvent raconter leur histoire.
Oui, parce que ça... Pas... Ah, hier, j'ai pensé, qu'est-ce que je vais dire demain et comment je suis devenue comme ça. Et je me souvenais, à un moment, j'avais 13 ou 14 ans, je crois. J'étais chez nous, à la maison. La radio tournait toujours. Et c'était un documentaire. Le documentaire, c'était de Chili. Une femme parlait de torture qu'elle a eue pendant cette période. Et c'était affreux. Et c'était la première fois que j'ai entendu que ça existait. C'était vraiment terrible. Et je me dis, mais je veux prendre l'avion immédiatement, demain, avec une armée. Et je veux... Donc j'avais l'idée que c'était possible. Et pourquoi le monde laisse passer des trucs comme ça? Et moi, je suis ici, et bien, je prends mon thé, je suis ici. Et tout le monde fait comme... Donc oui, j'ai pleuré. C'était vraiment terrible. Donc peut-être ça a changé quelque chose.
Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a, comme en 1973, tu parles de la dictature de Pinochet au Chili, est-ce qu'aujourd'hui encore il y a des choses qui te révoltent, Lisette?
Ce qui me révolte, c'est que nous, ici, on a tous les trucs de matériel, et ça donne aussi des déchets.
Déchets
qui sont transportés en Afrique. Et ça me révolte, oui. Donc, que tout le monde ici croit que c'est normal d'avoir tout et tout. Les déchets font... les enfants sont malades. Donc ça, je trouve... ça me révolte. Moins que la situation aux Pays-Bas, donc avec ce groupe collectif, on a battu beaucoup contre le gouvernement pour les ouvriers, pour les étudiants, donc on était vraiment avec le drapeau rouge à cette époque.
En 1985, lors d'une intervention publique du Premier ministre des Pays-Bas, et alors que se dressent au-dessus du public de nombreuses pancartes antimilitaristes, les musiciens du collectif se mettent à jouer dans la salle, perturbant joyeusement pendant de très longues minutes l'intervention ministérielle.
Maintenant, aux Pays-Bas, oui, ils sont des gens qui sont trop riches, à mon avis. Et ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup, mais tout le monde a son voiture, télé, nourriture. Donc, ce n'est pas quelque chose pour aller aux barricades.
Oui, tout à fait. Quoi.
Pour moi. Pour moi.
Dissonance
avec
Lisette Van Beek.
Tu m'avais dit aussi que tu avais un rôle de consultante pour faire le lien entre l'art et l'éducation.
Oui.
C'est pareil, c'est toujours autour de l'opéra et du monde de lyrique.
Non, pas du tout. C'est autour de tous les aspects de l'art et culture. J'ai pris ce boulot après 2009.
Aux Pays-Bas, je précise.
Aux Pays-Bas. 2009, c'était une crise économique. Et ceux qui ont touché, les premiers qui sont touchés, ce sont les artistes toujours, donc tout le soutien de communes, gouvernement était baissé ou enlevé. Donc après quelques années, c'est de moins en moins de concerts, de travail. Et je me dis, je ne veux pas être toujours, avoir ces soucis.
Oui.
Donc, j'ai donné des cours de chant sur un institut pour l'art et culture. Et là, la commune de Breda, où je travaille, a dit il faut changer le but. Le but sera que tout le monde doit avoir l'accès à l'art et culture. Et où c'est possible, à l'école, parce que tous les enfants sont à l'école, donc il faut organiser art et culture sur les écoles. Mais les écoles, ce n'est pas leur, leur truc. Donc c'est moi qui leur aide. Donc j'ai fait une connexion entre l'école et les artistes que je connais beaucoup.
Ah, tu es bien en relation avec
eux. Oui. Donc maintenant, beaucoup d'artistes qui n'ont pas trop de... Ok, tu veux travailler dans une école. Oui, blablabla. Donc comme ça, j'ai...
Donc oui, Lisette, c'est vraiment le collectif, c'est le solidaire, c'est le fraternel, c'est... Ouais. Tu es une artiste quand même, moi je dirais, je ne sais pas si ça se dit aux Pays-Bas, mais une artiste engagée.
Oui, je crois.
Engagée dans la vie de tous les jours, engagée en soutien.
Oui, tu peux dire ça, oui.
Donc Lisette, je te rappelle, parce qu'après avoir regardé le documentaire que tu m'as envoyé sur le groupe Wolpeppers, je voulais juste te poser deux questions, mais les poser à la Lisette de 2022, celle qu'il me semble est restée fidèle au choix de la Lisette de la fin des années 70, qui ne voulait rentrer dans aucune étiquette, dans aucune case, celle qui est encore et toujours au XXIe siècle une anarchiste humaniste, sociale, celle qui n'a jamais aimé les drapeaux ni les frontières, mais pour qui la liberté, la tienne Lisette, mais aussi celle des autres, a été un élément fondamental qui conditionne et a conditionné tes engagements passés et actuels, me semble-t-il. Lisette, quels enseignements tires-tu de ton engagement dans ce collectif anarchiste néerlandais qui, je le rappelle quand même pour les auditeurs, outre avoir créé un groupe de chansons engagées, les Wolpeppers, a été aussi un groupe d'activistes qui n'a pas hésité à interrompre le discours d'un premier ministre de l'époque, qui s'investissait dans le soutien aux luttes antinucléaires, aux luttes contre les missiles, contre les fascistes et pour la solidarité entre les peuples. J'imagine, Lisette, que si tu t'y es trouvé bien dans ce collectif, c'est qu'il y existait un mode de fonctionnement qui te convenait. Lequel était-il, ce mode de fonctionnement ?
Donc, le point de départ était la diversité du talent ou de la passion de chacun. Donc, ceux-ci ont été combinés dans une nouvelle création. Chacun a eu la possibilité de développer ses talents. Et de plus, nos projets étaient également diversitaires. Il y a tout, enfin, tu le dis, fanfare, garage, imprimerie. Ça me va très bien. Je le fais toujours comme ça. Je cherche toujours la diversité. Je me demandais parfois si je n'aurais pas dû faire un choix et me concentrer là-dessus et devenir très bon dans ce domaine. Mais non, c'est pas comme ça est allé. Je fais toutes sortes de choses parce que j'aime cette variété. Et toujours, je suis impliquée dans divers projets. J'aime l'aventure d'entrer dans quelque chose de nouveau, travailler dans divers cadres, toujours avec d'autres personnes, des endroits différents. J'aime la rencontre et l'émerveille que la apporte, et c'était plein dans cette collectif.
Mais oui, en fait, je voulais te poser une seconde question, mais tu as répondu, Lisette, parce que je voulais savoir qu'est-ce qui restait de ces années-là. Et bien, en fait, c'est ce que tu dis, c'est la diversité, et tu continues encore sur cet élan, sur cette lancée. Ouais. Et c'est ce qui.
Et avec l'élément central, qui est mon art, la performance, mais je peux l'utiliser à divers.
Le but, oui.
J'ai cette performance, mais ici, au Viala, j'ai mis mon art de performance dans ce projet de la commune de Paris, par exemple.
Je voudrais savoir quelles leçons tu as tirées de ces années d'engagement avec les Wolpeppers.
Pour moi, la leçon la plus importante important était de savoir que tout est possible et que c'est formidable d'être dans un environnement qui t'encourage à rechercher tes talents. Et de plus, quand on travaille ensemble, en respectant chaque individu et utiliser ses talents, on peut réaliser quelque chose de grand. Vous pouvez réaliser vos rêves. Hein. Et j'ai appris, ça aussi était très important pour moi, j'ai appris que c'est possible de sortir des systèmes dominants. Aussi, j'ai aussi appris qu'au sein d'un collectif, il y a un danger de se perdre dans l'intérêt public de quelque chose d'aussi grand. À un moment donné, je ne savais plus qui j'étais vraiment. J'ai quitté le collectif pour chercher ça.
Et tu l'as trouvé, la réponse ?
Oui, je crois, oui. Je crois qu'on reste chercher toute sa vie, mais je sais presque bien que je suis, qui je suis.
Ah, très bien, ouais, c'est super. Et, oui. Puis chercher qui on est, ça permet aussi d'avancer.
Et je crois que ça aussi est une leçon, que c'est important de savoir qui tu es et quels sont tes talents lorsque tu fais partie de quelque chose si grand. Hein. Je pense que je reçois aussi la motivation pour le travail que je fais maintenant à côté de ma carrière artistique. Je pense que tu as besoin d'art et culture pour découvrir qui on est. Et chez nous, ça s'appelle Bildung. Il y a Bildung. Bildung, c'est un mot allemand, mais on utilise ça quand on dit c'est important pour enfants de découvrir et qui tu es.
D'accord, et d'expérimenter pour savoir qui on est. Expérimenter voilà. Avec les autres pour savoir qui l'on est soi-même.
Oui,
très
oui.
Bien.
Et donc, pour moi, c'est important que ça fait partie de l'éducation des enfants. Et si tu se développes jeune, tu es plus fort plus tard dans n'importe quelle communauté. Donc, c'est pour ça que je suis motivée pour mon boulot comme consultant d'art et culture pour les enfants.
Donc, c'est à l'école. Tout le monde aux Pays-Bas, à l'école, au collège, tu apprends l'anglais et le français. Et après 2 ans, tu peux choisir entre allemand et allemand. Moi, j'ai choisi toujours le français parce qu'un jour, je vais vivre en France. Je ne sais pas pourquoi, mais un jour, j'aurai un lieu là-bas. J'ai rencontré Peter, c'est un Écossais qui vivait ici. Il nous emmenait au Tarn pour nager. Ouais. Je lui ai dit, oh, c'est un rêve à moi d'avoir une maison dans un endroit comme ça. Il a dit, un rêve, c'est fou, pourquoi un rêve? Rêve, ça ne sert à rien, tu faut le réaliser, il faut réaliser le rêve. Mais ce n'est pas si facile, parce que je suis artiste. Pourquoi pas, il a dit. Comment commencer à dire à tout le monde ici que tu cherches une maison? Et pour plaisanter, j'ai vu le facteur dire, ah, il y a la maison. Ah oui, là. Donc, on a passé la nuit ici, et le lendemain, très tôt, c'était cet Écossais, il dit, viens, this must be fate en anglais, c'est le destin, ça doit être le destin, parce qu'il y a un agent immobilier ici, et il a une maison à vendre, mais il n'a jamais vu cette maison, donc il est ici pour regarder. Donc si tu veux, viens regarder. Je dis, non, mais je ne vais pas vraiment acheter une maison. ma compagne dit, voilà, tu veux, tu toujours, tu veux en avoir. Ah, oui. Donc, à la fin de ce jour, c'était cette maison, où on est maintenant.
Ah, c'est super.
Mais je suis trop complètement content. J'aime beaucoup le minier, les violas. J'aime beaucoup
l'environnement.
Oui, l'Aveyron, la oui. Et maintenant, ici, j'ai trouvé quelque chose que je ne trouve pas aux Pays-Bas. C'est difficile à expliquer, mais peut-être parce qu'aux Pays-Bas, je suis déjà définie.
Tu as un statut qui fait que tu es reconnue comme artiste, etc.
Oui, oui, et l'histoire et tout ça. Ouais. Hein, donc, mais c'est pas toujours. Oui, c'est bien moi, mais il y a beaucoup de mentors qui
voilà,
me.
Les gens te voient comme ils t'imaginent, mais voilà. Pas forcément comme tu es, quoi.
Oui, et ici, je suis comme qui je suis à ce moment-là. Donc, ça me plaît beaucoup.
Merci beaucoup, Lisette. Et bonne aventure en France et aux Pays-Bas.
Avec plaisir, merci.
Vous trouverez sur la page internet de Dissonance tous les liens renvoyant au parcours et à l'actualité de Lisette Van Beek, ainsi que la liste, bien sûr, des chansons entendues. Cette émission est disponible en téléchargement sur les sites de dissonance.ovh et radiosaintafrique.com.
Salut
et fraternité.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house in the desert. You're living for nothing now. Hope you're keeping some kind of record. Well, Jane came by with the lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You went to the station to meet every train, but you never showed up by me, Lily Marlene. So you treated some woman to a flake of your life. And when she got back, she was nobody's wife. Her regards. can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you, I guess I forgive you. I'm glad that you stood in my way. If you ever come by here, meet for Jane or for me. Know your enemy is sleeping now, and the woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never really tried. Sincerely, a friend.